Marion Cazeneuve avec la tranche d'Haïti et les Amériques.
Bonjour Juliette, bonjour à tous. Il est 9h10 à Port-au-Prince, 13h10 en temps universel. À la une de cette édition, la prolifération des gangs en Haïti face à l'impuissance des autorités. 37 policiers seraient morts cette année dans l'exercice de leurs fonctions. Les Haïtiens, excédés par cette insécurité, ont fait grève hier pour la deuxième journée consécutive. Au sommaire également, ces graves accusations envers le président brésilien. Une commission d'enquête parlementaire l'accuse de 9 crimes, dont des crimes contre l'humanité dans sa gestion de la crise sanitaire. Blinken en Colombie, le chef de la diplomatie américaine poursuit sa tournée en Colombie aujourd'hui. Donc, il parlera de la lutte contre le narcotrafic, mais aussi de l'immigration illégale dans le pays. On en parle avec notre invité, Jacobo Grajales, spécialiste de la Colombie. Et puis, on finira avec le journal des Outre-mer. Ce sera avec Serge Massot. Serge, le cyclotron de la Martinique sera mis en service d'ici au mois d'avril 2022.
Oui, et ce grand centre d'imagerie nucléaire spécialisé dans la détection des cancers devrait être l'un des plus perfectionnés au monde.
Et à tout à l'heure, Serge.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Fatigués de l'insécurité et des enlèvements crapuleux, les Haïtiens ont de nouveau fait grève hier. De nombreuses institutions et la majorité des écoles ont fermé leurs portes pour la deuxième journée consécutive. Les commerces, en revanche, ont rouvert leurs portes. Cela n'empêche pas la population d'être terrorisée par les gangs. 4 jours après l'enlèvement de 17 citoyens nord-américains, ni les autorités ni la police d'Haïti n'a encore dit un mot sur ce crime. Sans être inquiétés, les bandes armées prolifèrent et deviennent même arrogante. C'est ce qu'estiment en tout cas les militants de défense des droits humains, interrogés par notre correspondante Amélie Baron.
Entre colère et peur, la population haïtienne et surtout les habitants de Port-au-Prince font quotidiennement face au risque d'être victimes des gangs. Marie-Hélène Gilles de la Fondation Jeux Clairés dénonce l'inertie de l'État face à cette criminalité.
Étant donné que les autorités au niveau de la justice n'ont rien fait, les autorités au niveau de la police nationale d'Haïti n'ont rien fait pour stopper le phénomène d'insécurité, et les gangs ont gagné beaucoup plus de territoire, maintenant la situation est intenable en Haïti par rapport au phénomène de gangs.
Et essayer de quantifier l'ampleur du problème donne des sueurs froides.
En 2019, on avait compté plus de 150 foyers de gangs. Il y en avait qui étaient dormants à travers le pays. Maintenant, au moment où nous parlons, on ne peut pas les compter. Parce qu'à chaque quartier, il y a un soldat qui est là, qui est le chef.
Un chef dans chaque quartier, les plus grandes bandes criminelles contrôlent désormais, elles, des larges pans du pays. Le gang qui a enlevé les 17 citoyens étrangers samedi n'en est pas à son coup d'essai. Et Marie-Rosie Auguste du Sénat, pour le Réseau National de Défense des Droits Humains, ne peut que déplorer l'ampleur de cette force de nuisance aujourd'hui sur une commune de plus de 300 000 habitants en banlieue de Port-au-Prince.
400 maraudeurs occupent depuis le début du mois de septembre toute la commune de la Croix-des-Bouquets. Dans n'importe quelle rue, les gangs, les membres du gang 400 Maraudeurs peuvent opérer. Si dans le temps, on avait l'impression que les gangs armés occupaient de préférence des corridors, des espaces qui n'étaient pas forcément très accessibles pour tout le monde et surtout pour les policiers, c'est qu'aujourd'hui, avec leur arrogance qu'ils affichent, eh bien, ils peuvent intervenir partout.
Cette arrogance s'illustre aussi par les armes lourdes qui sont en leur possession et dont ils se vantent.
Tout un arsenal de guerre et les gangs armés prennent plaisir à faire des vidéos pour les faire circuler sur les réseaux sociaux pour lancer justement un message à la population elle-même qui est aujourd'hui maintenue dans un climat de terreur, mais aussi pour faire comprendre aux policiers qu'effectivement à chaque fois ils auront à se colter à eux, et bien qu'ils risquent de mourir. Et c'est effectivement ce que nous voyons. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a des échanges de tirs entre des gangs armés et des agents de la PNH, eh bien on peut s'attendre systématiquement à enregistrer des pertes en vie humaine ou des blessures très graves au niveau des rangs de la police nationale d'Haïti.
Selon le Centre d'analyse et de recherche en droits humains, déjà 37 policiers ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions depuis le début de l'année, ce qui est déjà plus que le bilan de 2020, année durant laquelle 28 agents avaient été tués. Sous-équipée, la police est à la peine et la justice ne montre également pas des signes de lutte appuyés contre les gangs, notamment, comme le déplore Marie-Hélène Gilles, pour retracer les sommes considérables versées comme rançon par les familles des victimes d'enlèvement.
Il n'y a pas d'étude qui est faite au niveau du système bancaire pour voir où se trouve l'argent du kidnapping. Parce que 500 000 dollars, c'est de l'argent. 1 million de dollars, c'est de l'argent. Donc, on ne sait pas où est-ce que cet argent est caché. Pourquoi ils ne peuvent pas étudier afin de remonter le réseau? Qu'est-ce qu'ils font avec l'argent du kidnapping?
Ces dizaines, centaines de milliers de dollars qui permettent aux gangs de prospérer, de s'acheter armes et équipements toujours supérieurs à ceux des forces de police, une partie de cet argent est sans doute aussi blanchie, ce qui nuit évidemment au développement équitable de l'économie haïtienne. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
RFI, as vozes do mundo.
Penchons-nous à présent sur ces graves accusations dont fait l'objet le président brésilien. On en parle dans votre revue de presse. Marie Normand, bonjour.
Bonjour.
Une commission d'enquête parlementaire va demander aujourd'hui l'inculpation de Jair Bolsonaro. Il est accusé d'une série de crimes intentionnels lors de la pandémie de Covid-19 qui a fait plus de 600 000 morts au Brésil. Le chef d'État est notamment épinglé pour sa responsabilité dans les graves pénuries d'oxygène et aussi, Marie, pour ses soupçons, des soupçons de corruption dans l'acquisition de vaccins.
Et c'est un document de 1200 pages qui doit être lu au moins en partie ce mercredi. En tout, 9 chefs d'accusation sont retenus contre Jair Bolsonaro, parmi eux crimes contre l'humanité et prévarication, c'est-à-dire manquement aux obligations liées à sa charge. 2 crimes ont finalement été retirés à la dernière minute, précise Correio Brasiliense, ceux d'homicide aggravé et de génocide contre les populations autochtones. Le rapporteur de la commission d'enquête du Sénat, Renan Calheiro, s'en explique dans Folia de Sao Paulo aujourd'hui. L'objectif, explique-t-il, c'est de trouver un consensus pour que le Sénat valide ce rapport. Un vote qui pourrait intervenir dès mardi prochain. Interrogé par Raquel Miura, correspondante à Brasilia de la rédaction lusophone de RFI, le sénateur Alessandro Vieira du parti Cidadania espère que cette démarche aura des conséquences pour le président.
Nous nous attendons à ce que tout cela ait des conséquences juridiques dans la mesure où le ministère public, par le biais du bureau du procureur général, aura le temps de déposer une accusation devant la Cour suprême. Nous allons surveiller et exiger. Il est très important que la société joue également un rôle.
Et en tout cas, Marie, même si le président est bien inculpé formellement la semaine prochaine, ce serait un symbole plus qu'une menace.
Oui, la presse brésilienne rappelle qu'il bénéficie de suffisamment de soutien au Parlement pour éviter une procédure de destitution. Mais ce rapport pourrait tout de même avoir un poids politique à un an de la présidentielle.
Et direction l'Équateur à présent, Marie. L'Équateur sous état d'urgence pour 60 jours.
Une décision du président Guillermo Lasso qui pointe l'urgence d'une lutte contre l'insécurité liée au trafic de drogue. Des éléments des forces de sécurité sont dans les rues depuis hier, détaille El Comercio dans son édito. Ils mènent des opérations de contrôle des armes, des munitions, des explosifs, des perquisitions de drogue également et des patrouilles. Le journal s'interroge tout de même sur l'étendue des pouvoirs des forces armées. Bien que l'état d'urgence ne suspende ni ne limite la liberté de transit, d'information ou de réunion, il rappelle que son application intervient à un moment où des manifestations de grande ampleur de différents secteurs s'opposent à l'administration du gouvernement. Ces derniers craignent que l'état d'urgence ne soit utilisé pour réprimer ces manifestations. Pour l'AORA, la politique annoncée par le gouvernement est la bonne, car détourner le regard ne ferait que repousser l'inévitable. Mais l'éditorialiste se demande si le président Lasso osera aller plus loin encore. Le problème, explique-t-il, ne sera pas résolu par les seules opérations de police dans la rue et aux frontières. De gigantesques intérêts commerciaux et financiers ont leurs tentacules dans la vie politique du pays. Le régime aura-t-il le courage d'agir contre eux aussi ?
Après cette visite en Équateur, Anthony Blinken est attendu aujourd'hui en Colombie, à Bogota, où il sera reçu par le président Iván Duque. Avec nous pour en parler, Jacobo Grajales, bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes professeur en sciences politiques à l'Université de Lille, spécialiste de l'Amérique latine. Et d'abord, Jacobo Grajales, dans les années 2000, Washington avait apporté un appui à Bogota pour lutter contre le narcotrafic et la guérilla des FARC. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a toujours un soutien? Est-ce que les relations entre les deux pays sont toujours aussi solides?
Oui, absolument. Ce soutien reste très fort. Les États-Unis sont le premier bailleur de l'aide publique au développement en Colombie et de très loin. Également, la Colombie est le premier bénéficiaire dans la région de l'aide au développement et de l'aide militaire états-unienne. On a, par exemple, depuis 2010, plus de 6 milliards de dollars d'aide dont à peu près 20% d'aide militaire, ce qui s'explique notamment en raison de du poids très important qu'occupe encore aujourd'hui la question des drogues dans l'agenda bilatéral.
Et alors que va faire aujourd'hui le chef de la diplomatie, Anthony Blinken, aujourd'hui et demain en Colombie? Quels sont les sujets qui vont être abordés?
Alors, il y a essentiellement trois points à l'agenda. Le premier, le sujet traditionnel des relations entre la Colombie et les États-Unis, est celui de la lutte contre les drogues. La Colombie reste encore aujourd'hui le premier exportateur de cocaïne au monde et les États-Unis sont le premier marché. De même, la Colombie, même si un accord de paix a été signé en 2016 avec la guérilla des FARC, reste un pays en proie à des violences armées très liées au contrôle du territoire par des groupes armés liés au narcotrafic. Et cette menace sécuritaire inquiète bien évidemment les États-Unis. Le deuxième point de l'agenda est la question des relations avec le Venezuela. La Colombie, on s'en souvient, a été un acteur central de l'isolement diplomatique du gouvernement Maduro dans la région. Elle a des intérêts évidemment très directs puisqu'elle partage une grande frontière avec le Venezuela et qu'elle a été la première destination des migrants vénézuéliens. Il y a environ 2 millions de migrants vénézuéliens aujourd'hui en Colombie. Et le troisième point à l'agenda est lié à celui-ci puisqu'il s'agit des migrations. Mais cette fois-ci, ce n'est pas uniquement les migrations vénézuéliennes, mais les migrations du reste de l'Amérique latine et notamment celles en provenance d'Haïti ou en tout cas de la part de migrants haïtiens qui étaient souvent installés dans d'autres pays d'Amérique du Sud et qui, poussés par les crises économiques liées au Covid, tentent de rejoindre les États-Unis depuis quelques mois. Et notamment en passant par la Colombie, en passant par l'isthme de Panama. Et actuellement, il y a un peu plus de 20 000 personnes, dont une grande majorité de citoyennes et de citoyens d'Haïti, coincés dans cette frontière.
Et par contre, dans cette visite, il ne sera pas question des accords de paix entre Bogota et la guérilla des FARC. C'était il y a 5 ans. L'ONU s'inquiète d'une reprise des hostilités et il faut souligner, Jacobo Grajales, que malgré ces accords de paix, les assassinats aussi, notamment les assassinats d'activistes, se multiplient en Colombie.
Oui, absolument. On est à plus de 2000 leaders sociaux tués depuis les accords de paix de 2016, près de 300 anciens combattants des FARC qui ont également été tués. Et pourtant, effectivement, le point n'est pas à l'agenda bilatéral. On peut le comprendre parce que c'est un point qui serait embarrassant pour le gouvernement colombien. Malgré cela, il y a eu des tentatives des ONG, notamment il y a eu une lettre envoyée par le directeur régional de Human Rights Watch il y a quelques jours à Anthony Blinken, lui demandant d'évoquer ce point à l'agenda bilatéral. Mais les États-Unis, dans une région où plusieurs gouvernements lui sont hostiles, je pense, n'a absolument aucune envie de se mettre à dos son principal partenaire.
Dernière question, Jacobo Grajales, en quoi la visite du chef de la diplomatie américaine est-elle importante pour la Colombie et son président Iván Duque? On peut rappeler peut-être qu'il y a une présidentielle dans un an à peu près.
Je pense qu'elle est importante à deux titres. D'une part, il y avait eu des préoccupations, des inquiétudes sur le fait que cette relation se serait dégradée à la suite de l'arrivée du nouveau gouvernement à Washington. On se souvient du fait que des proches du président colombien avaient fait campagne de façon active et extrêmement maladroite pour Donald Trump. Et donc, on s'inquiétait d'une hostilité de la part du gouvernement Biden à l'égard du gouvernement colombien. Et le deuxième point est celui des violences policières qui ont marqué les derniers mois en Colombie, où il y a eu une mobilisation sociale extrêmement importante et où on a vu un seuil de violence franchi de la part des forces de police. Des militants des droits humains colombiens et états-uniens avaient tenté d'utiliser le Congrès pour faire pression, le Congrès américain pour faire pression sur la Colombie. Or, on voit aujourd'hui que la question n'est pas du tout à l'agenda bilatéral. Là encore, la relation entre la Colombie et les États-Unis est beaucoup trop importante pour que le gouvernement américain s'inquiète de ce genre de choses.
Merci, Jacobo Grajales. Je rappelle que vous êtes professeur en sciences politiques à l'Université de Lille, spécialiste de la Colombie. Merci d'avoir accepté notre invitation sur RFI. Et on vous retrouve maintenant, Marie-Normand, pour la suite et la fin de votre revue de presse. C'est une première, un célèbre dirigeant de l'ex-guérilla colombienne des FARC a été arrêté par la police lors d'un déplacement à l'étranger.
Oui, il s'agit de Rodrigo Granda, le diplomate en chef de l'ancienne guérilla des FARC, l'un des négociateurs des accords de paix avec le gouvernement colombien. À son arrivée à Mexico hier pour une conférence, il a été arrêté puis finalement expulsé vers la Colombie. Son parti, Comunes, a d'ailleurs annoncé qu'il était arrivé il y a quelques minutes. Comunes qui accuse le gouvernement Duque d'avoir alerté les autorités mexicaines du voyage de Granda afin que des mandats d'arrêt internationaux puissent être activés contre lui. Accusation balayée par Bogota. El Universal rappelle que Rodrigo Granda fait l'objet d'une notice rouge d'Interpol à la demande du Paraguay qui le recherche pour enlèvement et homicide. Mais les autorités mexicaines ont finalement décidé de ne pas l'activer en raison de l'immunité qui lui est accordée par les accords de paix.
Merci Marie Normand, c'était la revue de presse des Amériques et d'Haïti.
Le journal de l'Outre-mer.
Et on vous retrouve, Serge Massot, pour cette édition au spécial Caraïbes. Le cyclotron le plus perfectionné au monde sera bientôt opérationnel en Martinique.
Oui, bonjour Marion. Ce grand centre d'imagerie nucléaire spécialisé dans la détection des cancers devrait être opérationnel d'ici à la fin du mois de mai 2022. L'Agence régionale de santé n'attend plus que la remise du rapport d'audit de la Société française de médecine nucléaire. Un cyclotron aux capacités exceptionnelles, selon Karim Fari. Il est coordinateur médical de l'Institut caribéen d'imagerie nucléaire.
Ce cyclotron va avoir des capacités exceptionnelles de production de traceurs, donc ce qui est vraiment génial d'un point de vue médical. Après, le cyclotron tout seul ne suffit pas. Ça ne sert à rien de produire des traceurs qui ne peuvent pas être imagés par des machines TEP. Et donc là, les TEP scans qui sont donc en cours de commande, il y a deux TEP scans, un TEP scan petit champ, un TEP scan grand champ et une TEP IRM sont prévus dans ce bâtiment. Pour les installer, nous avons besoin d'autorisation de l'ARS. On espère avoir rapidement pour pouvoir commander les machines, pour pouvoir les installer à temps.
En quoi est-ce que ce projet nous placerait parmi les premiers mondiaux?
Ce TEP scan grand champ dont on parle beaucoup en ce moment dans le milieu, celui-là il va faire un peu plus de 1 mètre, ce qui permet d'imager pratiquement le cerveau, le thorax, le foie, l'abdomen, le pelvis en même temps, en quelques minutes ou quelques secondes, parfois en fonction des doses injectées.
Des propos recueillis par Audrey Govinda. En Martinique toujours, il n'y a plus besoin de passe sanitaire pour entrer à l'hôpital. Tous les agents du centre hospitalier, vaccinés ou non vaccinés, peuvent y entrer depuis ce matin. Plus de 600 agents avaient exercé leur droit de retrait depuis les incidents de vendredi où des gendarmes avaient été envoyés sur place pour filtrer l'accès à l'hôpital. Écoutez Serge Haribaud, c'est le porte-parole de l'intersyndicale. Il est au micro de Pierre-Yves Honoré.
Il y a un allègement mis en place par la direction concernant non seulement le test, mais ce qu'on appelle le pass sanitaire, que le personnel n'aura pas à nécessairement présenter pour rejoindre son lieu de travail.
C'est-à-dire que les agents seraient prêts à faire des tests, si je comprends bien.
Les agents ont toujours fait des tests. Par contre, il s'agit de tests de contrôle. Nous ne sommes pas dans de tests individuels de contrôle, nous ne sommes pas dans le cadre de pass sanitaire présenté. Aujourd'hui, le nombre de vaccinés ne permet pas la continuité des soins sur le territoire. Il y a lieu d'aborder non seulement la question du pass sanitaire, mais aussi la question de la vaccination obligatoire.
En Guyane, en revanche, troisième jour de blocage de la Sara, la raffinerie du territoire, par les militants de la Caravane de la Liberté, toujours fermement opposés au pass sanitaire et à l'obligation vaccinale. En Guyane, le carburant se fait rare, des stations-service sont fermées par arrêté préfectoral. Et c'est dans ce contexte tendu qu'arrive Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de la France insoumise à l'élection présidentielle doit notamment assister au tir de la fusée Ariane 5 demain soir. C'est la fin de ce journal. Bonne journée sur RFI.
Merci Serge Massot, c'était le journal des Outre-mer. Ainsi s'achève cette édition d'Haïti et des Amériques. Merci à Valentin Alves à la réalisation, à Véronique Guémard à la rédaction en chef. On se retrouve demain à la même heure, 13h10, temps universel. Merci d'être avec nous et de nous être fidèles sur la Radio du Monde.